Suite à ta présentation historique de toute le peuplement de cette région par des Kurdes et la vie qu'ils ont pu mener, je vais lancer une ou deux questions, et comme ça, au moins, se reposer. Et je te l'ai demandé tout à l'heure. Quand tu as parlé d'autonomie des régions kurdes, une des questions que je me pose, c'est est-ce que c'est viable, est-ce que c'est demandé par les Kurdes de différents pays, des régions autonomes propres aux pays existants? C'est-à-dire où on n'aurait pas forcément, et est-ce que c'est demandé par les Kurdes en général, un pays kurde pour l'ensemble de cette région, ou est-ce qu'on pourrait voir, ce qui ne serait pas inintéressant, si on ne pourrait pas avoir une autonomie d'un peuple ici, une autonomie là, et qui serait viable quand même avec des régions autonomes, sans pour autant demander la création d'un État. Ce qui ferait, pour ma part, ce qui pourrait être intéressant, parce que ça commencerait à emmerder aussi bien les régions locales que les États centralisateurs dont nous sommes, nous, Européens, et qui demandent des États durs, des États construits, alors que des régions autonomes qui laissent le peuple régir plus ou moins de manière libre, sa région me paraît de nos jours intéressante.
Comment on fonctionne? Je réponds.
Tu peux répondre, ou s'il y a d'autres qui ont des questions à poser sur. Sinon, tu réponds la première, ça fera naître toutes les questions.
Et autonomie des régions kurdes. D'abord, il faut faire une petite historique sur, à mon sens, sur l'État-nation. L'État-nation, c'est une invention européenne du capitalisme. Notamment français, c'est-à-dire s'il y a une nation, il faut un État qui présente cette nation et qui protège. Donc un État, une nation. Et d'ailleurs, sur la nation. Les terroristes les plus vus sont des Français, et notamment on connaît Renan. Comme les Kurdes ont raté cette époque d'État-nation, les Kurdes, surtout le leader kurde Ardalan, a développé une théorie sur le confédéralisme démocratique, parce que au Moyen-Orient, lors de mon exposé, j'ai mentionné que dans la région, souvent il y avait des grands empires. Des empires laissaient les peuples autochtones de vivre comme ils veulent et prélevaient un impôt. C'est-à-dire, par exemple, l'ancien président de Turquie, Turk Özal, dans les années 80, un journaliste suédois, il interroge, il demande est-ce qu'il est kurde, parce qu'il est d'origine kurde, Malatya. Lui, il est très malin. Il dit une réponse qui explique très bien la situation. Ma mère était kurde, moi non. Sa mère, elle était vécue lors de l'époque ottomane. Dans l'Empire ottoman, les Kurdes existaient. Mais dans la République turque, il n'y a pas de Kurdes. Voilà. Aujourd'hui, on voit les États qui décomposent l'Irak, la Syrie. Et l'Irak, la Syrie n'existaient jamais dans ces frontières. Et en Irak, il y avait trois vilayettes, Mossoul, la région kurde, Bagdad, la région sunnite arabe, Basra et chiite arabe. Et en Syrie, il y avait Damas et Alep. Alep, c'était au nord, en partie kurde, et Damas, c'était plutôt des arabes. Mais comme les États étaient créés par l'Angleterre et la France suite à un partage de Sykes-Picot. Donc, on imite l'Europe, l'État-nation. Donc, il n'y a pas une nation, mais on essaie de créer une nation par la force. Et d'ailleurs, un chercheur disait que pour une nation, il faut une état. Un état. Et pour protéger un état, il faut une armée. Tandis qu'en Turquie, il y a une armée. Pour cette armée, il faut un état. Et pour l'état, il faut une nation. Vous voyez la formulation. Et c'était pareil pour l'Irak et pour la Syrie. Quand on crée des états par la force ainsi, on crée des conflits. Et les conflits qui ne cessent jamais. Et constatant cela, et le confédéralisme démocratique prévoit que dans l'intérieur des États, on crée des sociétés démocratiques et organisées d'en bas en haut, et des assemblées populaires. Et la première application, c'est à Rojava, au Kurdistan syrien, en partie dans certaines régions du Kurdistan turc, notamment Şırnak, Hakkari, Cizre. Ce qui dérange vraiment les États existants. Et ça dérange aussi certains dirigeants kurdes. Par exemple, Şengal, la région où vit les Yézidis, était attaquée par Daesh en août 2014.
Pardon, quand il y a des Yézidis, les religions des Yézidis.
Et les Yézidis, et c'est des Kurdes non musulmans, et surtout des Yézidis, c'est dans la lignée d'anciennes religions kurdes zoroastriennes. Et chez eux, la violence était interdite. Pour cela que, par exemple, dans l'Empire ottoman, il y avait une exception. Les Yézidis ne faisaient pas le service militaire. Parce que eux, il trouvait que violer quelqu'un, tuer quelqu'un, c'est pas possible, c'est sacré. La vie humaine est sacrée. Donc, ils ne prennent pas des armes, ils sont exemptés de service militaire. Et donc, quand Daesh attaque, c'était censé que les forces Barzani, Peshmerga, protègent les Yézidis. Mais ils ne sont pas su résister, protéger, donc il s'est enfui sans prendre de précautions. Par la suite, les forces de YPJ, c'est-à-dire les Kurdes de Syrie, sont arrivées avec le PKK, et ainsi une résistance est organisée, et cette résistance a pris l'exemple de Rojava pour créer une région autonome de Şengal. Et la région Şengal n'était pas inclus dans le Kurdistan irakien jusqu'à cet événement. Et c'était une région à discuter avec le pouvoir central pour inclure au Kurdistan. Et quand les Yézidis prennent l'exemple de Rojava, créent un canton autonome, Barzani il a arrêté trois dirigeants de résistance des Yézidis. C'est-à-dire, et même Barzani, il est contre cette autonomie et cette autogestion. Et dans le capitalisme, l'État-nation, c'était la mode, le fonctionnement principal. Et ainsi, les capitalistes contrôlaient leur marché et organisaient organiser l'exploitation. Et aujourd'hui, le capitalisme est rentré dans une crise profonde et perpétuelle. Des crises suivent d'autres crises. Et en partie, ces crises viennent d'organisation des États, de la société. Donc, il faut dépasser l'organisation des États-nations, et la réponse c'est l'autogestion. C'est l'idéal, bien sûr, d'organiser des régions par région, d'en bas vers haut, après des régions qui renvoie des délégués pour créer des entités plus importantes. Je sais que c'est très difficile, c'est pas facile, mais si on veut créer une paix sociale et arrêter l'exploitation l'humain par l'humain, et il faut trouver des solutions politiques adaptées. Et la solution politique adaptée, pour moi, c'est l'autogestion et le référendum démocratique. Il faut faire beaucoup de chemin, mais il faut commencer quelque part. On a commencé, on a essayé de résister et faire répandre, c'est-à-dire faire tache d'huile.
Comment c'est perçu par les Kurdes qui ne vivent pas dans la région qu'il y a cette tension entre Kurdes, leaders Kurdes irakiens et les Kurdes en Syrie? Ils se sont, c'est pas une unité, hein, c'est, il ne faut pas y croire.
Oui. La question est ceci. Les dirigeants de Kurdistan irakien sont membres d'une classe régnante dans la région, connectée à la bourgeoisie et capitalisme et impérialisme international. Tandis que la réponse autonome confédérale démocratique, c'est une réponse populaire du peuple. Et pour cela que il y aura une lutte entre des classes aussi. C'est une lutte des classes, quelque sorte. Et dans la diaspora, ceux qui s'identifient plutôt dans le côté progressiste gauche, et ils sont pour une autonomie, une autogestion. Et ceux qui sont pour un capitalisme, une internation, ils sont pour Barzali et les dirigeants de Kurdistan irakien.
Est-ce que vous pouvez nous dire un peu la présence des Kurdes en France, l'origine, la quantité et les problèmes qu'ils rencontrent?
Les Kurdes ont commencé à venir en France dans les années 60-70. D'abord, dans le cadre des ouvriers immigrés officiels, c'est-à-dire la France demande des ouvriers en Turquie, la Turquie renvoie, et on voit surtout une concentration dans la région de Lyon, Strasbourg et Paris, une ancienne immigration kurde. Et après les années 80, on voit plutôt une immigration politique, parce que en Turquie, et dans les années 80, plus de 3000 villages kurdes ont été détruits et rasés. Une grande partie des Kurdes se sont exilés, soit dans des grandes villes de Turquie, kurdes ou en Europe. Et on voit à l'arrivée des Kurdes plutôt politiques dans les années 80. Aujourd'hui, en France, on estime à peu près 500 000 Kurdes, essentiellement concentrés à Paris, Strasbourg, Lyon. Après, il y a un peu partout, à Marseille, à sa région, on peut trouver à peu près 20-25 000. À Toulouse, il y a 500-600. Et à Bordeaux, un millier. C'est-à-dire, en France, c'est autour de 500 000. Et au nombre de votants, j'ai eu une information de 280 000 votants kurdes.
Pour la partie turque. Pour le cas de cette élection en Turquie.
Oui, c'est ça. Et parce que en Turquie, les Kurdes n'existent pas officiellement. Comme on sait, par rapport à leur lieu de naissance.
Ah.
après l'attaque de Saddam sur les Kurdes, et ils ont rentré en Turquie, ils ont s'échappé. Madame Mitterrand, elle est partie là-bas. Elle a amené une dizaine de familles à Albi, Kurdes irakiens. Et ils sont là aussi. Voilà.
Et il y a à peu près 1 000 000 Kurdes qui étaient venus dans ce cadre-là.
Je peux parler juste de la question que vous avez posée sur l'autonomie par rapport à la région ou par rapport au pays. Normalement, autant que le peuple kurde ou autant qu'un kurde, moi personnellement, on préfère avoir un État kurde. Ça veut dire de diriger notre pays, notre peuple, nous-mêmes. Mais par contre, quand on voit la conjonction du Moyen-Orient, que le pays il est partagé par 4 pays, ça devient difficile d'avoir un Kurdistan libre. Pour ça que, bon, dans la partie qui est occupée par l'Irak, pour l'instant, il y a une autonomie. En Syrie, ça commence à venir. Et on préfère, bon, pour l'instant, comme que vous avez dit, d'avoir chaque pays qui est dirigé par eux-mêmes. Par exemple, en Turquie, souvent, c'est des partis politiques proches, je veux dire, proches PKK. Et en Syrie, c'est YPG. Chacun, il essaye de faire l'endroit qui se trouve eux-mêmes. Ben, sinon, en général, si on pose la question au peuple kurde, c'est avoir un pays libre, un Kurdistan libre.
C'est esprit, c'est tout simple. On a un cerveau, ça cassait, ça divisait par 4. Et un jour, le cerveau, moi je crois personnellement, ça va réunir. Voilà, ça va faire un cerveau entier. Voilà,
actuellement, il y a un organisme qui existe ou des rencontres régulièrement qui fédèrent ces 4 parties ou...
Les Kurdes essaient de créer un conseil national kurde depuis longtemps. On a eu des tentatives. En Europe, la première fois, il y a eu un parlement de Kurdes en exil. Et de 1995-1999, après, c'est transformé au conseil national de Kurdistan. De 1999 jusqu'à aujourd'hui, ça existe toujours, mais c'est pas très présent. Moi-même, j'étais pendant 4 ans le membre de ce conseil national de Kurdistan. Aujourd'hui, il y a des rencontres pour faire une conférence nationale du Kurdistan. Et pour le faire, il y a 3 partis principaux. Le PKK et le PDK, Barzani, et l'UPK, Talabani. Et aujourd'hui, le PKK et l'UPK sont d'accord. Et le problème vient de Barzani, parce que le PKK, depuis 10 ans, applique une règle. C'est quoi? Là où il y a une instance kurde, il y a une représentation paritaire, homme-femme. Et toutes les tâches partagées entre hommes et femmes. Aujourd'hui, il y a une centaine de villes dirigées par les Berbères kurdes. Il y a commère, c'est-à-dire une femme, un homme. Et dans toutes les instances, c'est ainsi. Et le PKK impose qu'il y a une coprésidente. Et président, c'est Barzani, il accepte le PKK. Et coprésidente, le PKK propose Leyla Zana. Mais Barzani, il n'accepte pas qu'une femme soit égale avec lui. C'est bloqué là.
Ouais. Mais ça, c'est général ou c'est juste dans une région où cette émancipation
ce congrès national, c'est-à-dire cette conférence nationale du Kurdistan, va représenter toutes les parties du Kurdistan. C'est-à-dire, et il y aura des représentants de Kurdistan turc, iranien, irakien et syrien. La présidence partager entre Barzali et les Lazana et bloquer maintenant dans cette étape.
Ben, la langue il a, kurde il a, est particulière.
Qui?
Une langue.
Une langue
la
particulière.
Partout.
Non, les,
non. Est-ce qu'il y a des
dialectes. Il a quatre dialectes, grands dialectes, sur la carte. Kurmanji, le vert, le jaune, ou le Zaza, et Soran, vert clair, et Amba Gorani. Et c'est une langue de la branche iranienne. Et, avant l'unification de l'Allemagne, le plus grand écrivain allemand Goethe, au bout de 300 000 personnes n'arrivaient pas à lire, comprendre Goethe. Parce que dans chaque région, il y avait un dialecte. Et en Italie, c'était pareil avant 1960. C'est les États-nations qui ont unifié les langues. Mais un malheur, aussi un bonheur, les Kurdes n'ont pas créé l'État-nation et donc il y a une diversité des langues kurdes. Pour moi, c'est une richesse. Il faut la garder.
Majorité dialecte, c'est Kurmanji, mais surtout en Turquie. Voilà, mais, voilà, donc tout, c'est majorité.
Est-ce que les dialectes
comprenaient
entre
eux? Les dialectes, dans le sens, moi, quand je fais attention, je comprends. Mais quand je ne fais pas attention, bien sûr, ça m'échappe. Il faut faire attention.
Est-ce que les Kurdes parlent arabe, par exemple, dans les pays?
Les Kurdes sont polyglottes naturellement. Moi, ma langue maternelle, c'est kurde, mais je n'arrive pas à écrire et lire le kurde, parce que j'ai fait des études en turc. Mon turc est meilleur que mon kurde. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a présenté des ouvrages kurdes. Les écrivains kurdes écrivaient Yaşar Kemal en turc, Selim Bereket en arabe. C'est le plus grand écrivain de la langue arabe, kurde, syrienne, Selim Bereket. Et Yaşar Kemal, l'un des plus grands écrivains de la langue turque et kurde.
Alors, finalement, c'est quoi qui fait l'unité des Kurdes? C'est quoi qui fait l'unité des Kurdes? Puisqu'il y a des langues différentes, c'est une race, c'est quoi?
C'est, pour moi, c'est la culture kurde. La culture... Par exemple, je me suis rendu compte, quand je suis venu en France... J'ai rencontré avec les Kurdes d'Arménie, avec les Kurdes d'Iran, les Kurdes irakiens, là en Syrie. Et quand on discute, je vois que dans mon enfance, ce que ma grand-mère m'a raconté comme histoire, ils savent la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une souche commune, une culture. Ce n'est pas uniquement la langue. Une façon de vivre. Par exemple, chez les Kurdes, la femme a une place particulière, malgré la domination de l'islam. Les Kurdes, c'est une société séculaire. Par exemple, Barzani, c'était un grand seigneur féodal, mais dans son armée, il y avait des femmes. Et l'une de sa garde-corps, c'était une assyro-caldienne, une femme. C'est-à-dire, il confiait sa vie à une femme. Dans le fond de société kurde, il y a une séculaire, une société séculaire, une culture commune.
Il y a une valeur, c'est ça.
Et aussi, même Zine, dans cette histoire, est racontée un peu partout du Kurdistan. Et, c'est-à-dire, si vous allez au Kurdistan irakien, vous trouvez la même histoire et en Turquie, ouais. En Iran, en Syrie.
Quel est l'avenir et l'espoir pour les jeunes de ces pays?
L'avenir, il faut lutter. Et sans lutte, on ne peut rien faire.
Et ils sont prêts à lutter.
Et on a vu l'exemple à Kobané. Et les jeunes gens se sont lutté avec de rien pratiquement. Ils ont réussi à stopper une armée très importante de Daesh. Par exemple, il y a 15 jours, à Mahabad, au Kurdistan iranien, et dans un hôtel, il y a une femme qui fait la ménage dans la chambre. Le directeur de l'hôtel oblige de coucher avec les membres de service secret iranien. Et la femme s'est jetée de quatrième étage. Donc, ça crée une vague au Kurdistan, surtout iranien. Après, c'est répandu au Kurdistan irakien, syrien, turc, et même en Europe. Il y a eu partout des manifestations, et surtout des jeunes femmes, pour protester contre ces actes.
En même temps, on a confiance à notre jeunesse en vue du problème de Kobané. On a eu des jeunesses du côté turc, du côté de l'Irak, du côté de Syrie, qui sont venus de se combattre pour le Kobané. Même des Kurdes de l'Iran aussi sont venus. Ce que je veux dire, personnellement, moi je n'ai pas peur de jeunesse kurde. Mais pour l'instant. Bon, après, on s'apprend.
Non, quand je disais quel avenir, je veux dire, est-ce qu'ils peuvent faire des études?
Non, mais ce que je veux dire, là, on est deux jeunes là, j'en étais là en fac. On a deux.
J'ai trois enfants.
Ils étaient en fac bac plus 5, je ne sais pas, ingénieur ou encore. Quand on a la moyenne, il y a des jeunes qui continuent à étudier
en Europe.
Oui, mais ici.
Oui, ici en France.
Mais là-bas, là-bas, est-ce qu'il y a des structures qui leur permettent...
Au Kurdistan d'Irak.
Mais en effet, jusqu'à des années 70, les études supérieures étaient réservées à une élite riche. Mais depuis, et maintenant, c'est plutôt démocratisé, entre guillemets. Les jeunes kurdes font des études un peu partout, en Turquie, en Irak, en Syrie. Mais quand il s'agit d'une lutte importante, par exemple, plusieurs jeunes ont rompu leurs études universitaires pour aller combattre à Kobané. Et ce qui est nouveau, la communication maintenant, c'est très facile par rapport à avant. Avant, l'avènement de la République de Mohamed, on ne saurait pas en même temps. Maintenant, surtout, on a créé des télévisions par satellite. On n'a pas des états, mais on a plusieurs télévisions. Et les télévisions qui font un peu aussi l'unité.
En Irak, Kurdistan, l'Irak, déjà on dit, il y a un état quand même. Et là-bas, c'est organisé en kurde. Mais pour un Iran, en turc, déjà, langue, c'est interdit. Il y a beaucoup de choses, c'est interdit. Mais quand même, par rapport les jeunes kurdes, ils étudient avec langue turque. Mais quand même, il y en a qui font leur étude à fond quand même.
Expliquer aujourd'hui la situation du Kurdistan de la Turquie avec le Parti et l'Amérique, tout ça. Parce qu'ils ont de grandes forces dans le milieu aujourd'hui.
Grâce à la lutte aujourd'hui en Turquie, dans certaines universités, il y a des études en langue kurde pour former des enseignants, surtout dans l'université de Mardin Artuklu et dans l'université de Tunceli Dersim pour Zaza. Aussi, le mouvement kurde a lancé une campagne de faire des études en langue maternelle. Et pour cela, l'an dernier, on a boycotté dans plusieurs localités les écoles turques. Les municipalités ont essayé de créer des écoles en langue kurde.
Mais quand même, c'est symbolique quand même. Encore, c'est symbolique.
Oui, mais quand même, il y a des tentatives et une renaissance.
Par rapport au territoire kurde qui est tout à fait à l'est, là, aux confins de Turkménistan, est-ce qu'il arrive à garder une unité avec le reste des autres populations kurdes ? Parce qu'il est très excentré.
Et le Kurdistan.
Est-ce qu'il y a une unité
non. Le Kurdistan, et quand on parle de Kurdistan, le Kurdistan, c'est cette partie-là. Oui. Mais ça, cette partie-là, c'est pas Kurdistan. Là où il y a des Kurdes.
Exil.
Et là où il y a des Kurdes. Et par exemple, dans cette région, il y a 1 million de Kurdes, la région Khorasan. Et il y a des Kurdes aussi à Bagdad, aussi à Téhéran. Et d'ailleurs, la plus grande ville kurde, c'est Istanbul. Aujourd'hui, plus de 3 à 4 millions de Kurdes.
Il y a quand même des gens de langue kurde.
Oui. Le pays kurde, c'est ça.
Ouais. Le reste.
Pardon ?
À droite, à gauche, c'est exilé.
D'accord. La
cohabitation ? Cohabitation, ça devient de plus en plus difficile, surtout depuis les élections. Et partout où les nationalistes turcs, par exemple en Turquie, attaquent des bureaux de HDP, les Kurdes sont visés. Et ils étaient visés plusieurs reprises dans des villes turques. Mais il y a des regroupements dans des villes, dans des quartiers. Par exemple, on a un député à Mersin, un député à Adana, 3 députés à Istanbul. Si on dépasse 10% de barrage, on peut avoir plus de 20 députés dans la partie turque. Et c'est-à-dire dans la partie turque, il y a au moyenne 10 millions de Kurdes qui vivent aujourd'hui. Mais la cohabitation devient de plus en plus difficile, pour cela que l'autogestion et l'autodéfense est très importante.
Mais parti HDP dit, on dit HDP, ça composait toutes les minorités aussi. Il y a la majorité aussi, il y a les Turcs, les représentants des députés, Arabes, Kurdes, Arménie. Arménienne, après Assyrienne, c'est-à-dire vraiment c'est une partie démocratique pour l'humanité.
Et d'ailleurs le nom du parti c'est le parti des peuples démocratiques, les peuples.
On a fêté, entre guillemets, il n'y a pas si longtemps que ça, le génocide arménien. Or, y a un semblant de génocide, au moins kurde, qui s'est passé à peu près en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas eu des tensions entre les Kurdes et les Arméniens ? Est-ce qu'il y a eu des alliances entre les Kurdes et les Arméniens ? Comment ça s'est passé ? C'était donc à la fin, on va dire, de la guerre de 14-18, quoi, 18-20.
Le génocide arménien, c'est un événement très tragique que nous condamnons fortement. Il faut reconnaître le génocide et réparer les dommages au moyen pour l'Allemagne. Et l'Empire ottoman, à la fin, il jouait sur la carte d'Islam. Comme le sultan ottoman était aussi le calife, et à la fin de l'Empire, surtout Abdülhamid II, il a très bien joué cette carte, et pour garder les Kurdes dans l'Empire ottoman, il a reconnu des privilèges aux Kurdes. Et dans ce cadre-là, il a créé des troupes d'Hamidiye, qui s'appelle son nom, des tribus kurdes rémunérées par le sultan. Et ces troupes ont été instrumentalisées, utilisées lors du génocide arménien. et c'est un malheur. Mais entre autres, les historiens arméniens reconnaissent que 600 000 Arméniens ont survécu de ces génocides, dont 120 000 ont été sauvés par les Kurdes de la région d'Ersin.
Allez-y.
Et c'est-à-dire, 1 sur 5 étaient sauvés par les Kurdes aussi. Il y a une responsabilité mitigée. Et cette question, j'ai été interpellé plusieurs reprises, surtout par les Arméniens. Aussi, certes, de 1915-16, il a le génocide arménien. Et aussi, 16-17, il a l'occupation des Russes au Kurdistan. Ils sont venus jusqu'à Diyarbakir et Van.
Jusqu'ici, l'armée russe ça a occupé. Et pendant cette campagne de l'armée tsar, les comités arméniens qui guidaient l'armée des tsars, et ils ont fait aussi des massacres dans les villages kurdes. Je disais que entre les victimes, il n'y a pas une concurrence. Entre les victimes, il faut créer une solidarité. Parce que le bourreau est le même. Et aujourd'hui, le mouvement kurde, le Conseil national du Kurdistan, ont reconnu le génocide arménien. Ils se sont rendus en Arménie et qui est condamné par l'État turc. Il y a une histoire tragique. Malheureusement, en partie, on a aussi subi. Mais personne ne parle aussi le génocide des Assyro-Caldiennes. 500 000 Assyro-Caldiennes aussi étaient éliminés par les Ottomans. Et après, pendant la période de République, Mustafa Kemal,
Atatürk,
dans le cadre de l'échange de la population, contre 400 000 musulmans de la Grèce, il a expulsé 2 millions grecs d'Anatolie. C'est énorme. Il y a des villes, des villages entiers qui étaient vidés.
Actuellement, on a quand même du mal à comprendre ce que veulent nos États à nous, vers qui ils se penchent. Parce que quand on sait qu'en 16, 17, 18, 19, on a partagé tout ça, on a permis la création d'État d'Israël, on a refusé à l'Arménie, on a refusé au Kurdistan un État, qu'après on s'est fait ce petit partage à nous, avec des frontières carrées, là, ou pointeuses, on s'en fout. Et que maintenant, c'est quand même nous qui donnons parfois des armes à Daesh quand ça nous arrange, parfois des armes à l'Irak, parfois à l'Iran pour combattre, parfois la Syrie, qu'on va re-aider à combattre des Kurdes, pourquoi pas, qu'on va donner des armes à des Kurdes pour les combattre. Daesh qui va être aidé par l'Arabie Saoudite, par le biais des... Nos États à nous, la France, arme tranquillement tout ça. Et est-ce qu'il n'y a pas une crainte que d'être instrumentalisé par nous? Parce que ça doit être un peuple très fort, actuellement à peu près soudé, à peu près uni. Je ne suis pas sûr qu'il n'y aurait pas une tentative de recréer des États, et on en parle, par nous, par les Européens, de créer des vrais États-nations. Avec la Turquie, ça aurait été dur, mais peut-être dans les autres parties. Et dire, ça y est, c'est un État, nous faites, nous embêtez plus, vous avez un État, et c'est nous qui créerons encore une fois.
Certes, il y a une risque d'ingérence forte. La différence par rapport aux des années 20, début siècle dernier, et aujourd'hui, il y a une circulation d'informations fabuleuse. C'est-à-dire, la communication est très facile. Et les Kurdes, par rapport à avant, ils sont bien éduqués.
il y a une génération qui est née et a grandi dans des luttes. Et vous imaginez, depuis 1984, il y a la lutte armée en Turquie. 31 ans. C'est énorme. Et donc, il y a une conscience qui se développe, une conscience. Et plutôt, je trouve démocratique, par exemple, aujourd'hui, on voit dans le sein de HTP, et tout à l'heure, j'ai parlé de la parité. On a présenté 550 candidats partout de Turquie, dont 268 sont des femmes, c'est-à-dire 48% des femmes. Et dans des positions éligibles, souvent. Et donc, il y a une culture démocratique qui se développe de plus en plus. Et aussi, une génération qui ne laisse pas faire. Et certes, comme tu dis, partout il y a des services secrets européens et tout qui interviennent. On a un projet, et ce projet est testé jusqu'à maintenant, développé dans la lutte. On a des acquis, on ne voudrait pas lâcher ces acquis. Et il y a une transmission de savoir-faire, de la culture, de la lutte. C'est pas facile, mais pour eux aussi, c'est pas facile. Pour tout le monde. Et pour ceux que une solidarité internationale est très importante et la solidarité passe par la connaissance. Et ce type de réunion sert à la connaissance. Et donc, quand vous connaissez une cause, vous vous solidarisez plus facilement. Si vous ne connaissez pas, vous vous en foutez. Donc, il faut que les gens connaissent, il faut qu'on parle autour de nous pour qu'on est courant de ce qui se passe. Et s'il faut agir, il faut agir.
C'est-à-dire
que on ne réussit pas tout seul. Il faut un soutien. Il faut une solidarité.
Ça aurait été ma question. Les Kurdes en Turquie, en ce moment, le gouvernement parle avec Öcalan. On essaye de ne pas s'entretuer trop. Les Kurdes en Irak, ils sont relativement calmes depuis 2004 à peu près. Ceux qui sont en danger, ce sont les Kurdes en Syrie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les soutenir concrètement?
Concrètement, aujourd'hui, à Kobané, la ville est détruite à 80%. Et sur 60 écoles, il reste 3 écoles. Et sur 5 hôpitaux, il ne reste pas des hôpitaux. Il y a des cliniques de rien. Et donc, il faut d'abord aider à reconstruire Kobané. Et pour ça qu'on a lancé une campagne pour la reconstruction de Kobané. Et après, il faut, politiquement, il faut en parler autour pour que les gens se sensibilisent. Et s'il faut agir, il faut agir. Et depuis ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce qu'on peut faire, c'est la solidarité financière plutôt.
Dans les années 70, quand il y avait Nicaragua, il y avait des brigades qui ont creusé des puits et fait tout un tas de choses.
À Kobané, il y avait
encore trop dangereux.
Et à Kobané, il y avait des brigades internationales. Hein. À Kobané, il y avait des Allemands, d'ailleurs un Allemand et une Australienne est tombé martyr à Kobané.
On a vu des reportages à la télé sur des étrangers qui venaient spontanément aider les Kurdes.
Il y avait des combattants.
Ouais, un Australien aussi, je crois.
dans les années 30,
oui, sont allés avec les... c'est une belle question. La gauche qui a inventé la solidarité internationale, aujourd'hui la gauche a replié sur des notions nationales. Et aujourd'hui, les islamistes ont créé l'international. Aujourd'hui, Daesh, Al-Qaïda, c'est l'exemple. Et la bourgeoisie, le capitalisme, ils sont internationaux. Hein.
Mais pas la gauche.
Pas la gauche. C'est très timide.
C'est pour ça, quand tu parles d'un projet de solidarité, c'est un projet de solidarité avec un peuple, mais aussi avec une idée politique forte.
Exactement.
Actuellement, c'est indissociable.
Mais, je ne demande pas une solidarité sine qua non aux Kurdes. Parce que aujourd'hui, il s'agit de l'avenir de l'humanité. Et donc, on disait, j'ai dit, l'avenir, c'est le socialisme. Toujours on dit socialisme, mais le socialisme au XXe siècle. Et un socialisme féminin, un socialisme écologique.
Quand tu parles de les valeurs et la différence entre... À la question du monsieur là, qui demandait, mais qu'est-ce qui réunit les différents peuples kurdes, ne serait-ce que cette idée que les femmes puissent être l'égale de l'homme, mais il n'y avait aucune société actuelle qui le prônait, ça. Aucune... Il fallait qu'on écrive des textes, nous, des Européens, forts, pour arriver à un semblant, et encore, on est loin. Est-ce que c'est dans le zoroastrisme ou dans les choses comme ça qu'on tire ces valeurs d'égalité entre les hommes et les humains?
Oui. Et aujourd'hui, il y a un congrès libre des femmes qui est créé, qui fait des recherches sur la question féminine. Comme tu disais, elle tire des leçons de zoroastrisme pour interpréter, pour adapter aujourd'hui. Dans le zoroastrisme, il y a une égalité homme-femme. Je ne sais pas en détail, mais mon interprétation est ceci. Et dans l'évolution des sociétés, le climat est très important. Le climat et la fertilité. Si on vit dans une région moins fertile et rude, l'homme qui domine, parce que l'homme résiste plus facilement aux conditions dures. Et les femmes soumettent. Et quand dans les régions plutôt fertiles et le climat est bon, tempéré, donc l'homme n'arrive pas à dominer aussi facilement. Et d'origine du matin, les femmes qui étaient dominantes, matrimoniales. Société matrimoniale. Donc l'évolution patrimoniale était plutôt lente. Et donc, ce qui nous a permis de garder cette culture. Comme Mésopotamie, c'est une région fertile, un climat tempéré, et je pense que ça vient de là aussi, à mon sens.
Il y a un contre-exemple. Hein. Il y a un contre-exemple de ça. Parce que au Tibet, par exemple, il y a tout un pays où ce sont les femmes qui sont dominantes, et pourtant ils sont à 3000 ou 4000 mètres d'altitude. Ce sont les femmes qui gèrent la société. C'est un pays, qui est. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin je sais que. Oui, c'est le Ladakh.
C'est le Ladakh.
Ladakh ?
Ouais.
C'est où c'est ?
Non, non, c'est autour dans le lac, mais je ne pourrais pas dire aussi.
C'est au nord de la Birmanie, je crois.
Je connais pas. Moi,
il y a un contre-exemple. L'explication que vous donnez du fait que c'est le climat rude qui permet aux hommes de dominer, c'est pas évident. Parce que je crois que, du point de vue de la résistance physique, les femmes ont autant de ressources que les hommes.
Et le climat rude, mais ici, il a une fertilité. Et arriver facilement au vivier. Parce que la société est passée on accueillait des fruits, après on a passé dans la société qui est basée sur la chasse. La chasse, c'est le rôle de l'homme. Chasseur, oui. C'est une histoire un peu. Je ne sais pas, cette région, peut-être il y a une fertilité là où les femmes peuvent arriver facilement à cultiver ou avoir des viviers. Hein. Je ne sais pas.
Les trois femmes assassinées il y a un an ou deux à Paris, l'anarchisme complet.
Ces trois femmes, dont une était parmi les fondateurs de PKK, Sakine Jansız.
Dersu, Zaza.
Maintenant, on sait clairement que c'est commandité par le service secret turc. Et un certain Ömer Güney qui a été infiltré à Paris au sein des associations kurdes. Et lui qui a assassiné, la France, jusqu'à maintenant, n'a pas élucidé cette affaire. Et la France, à mon avis, était courante parce que je connais le lieu où ces femmes étaient assassinées. Moi-même, j'étais allé plusieurs reprises. J'étais tout le temps sous surveillance des services français. Et donc. Il y a eu des accords. Et justement, cet assassinat est intervenu juste au début du dialogue entre Öcalan et AKP. Et quand il y a des dialogues, de trouver une solution à une question type kurde, parce que il y a certains qui profitent de cette situation, de l'armée ou des mafias, et donc ils ne veulent pas qu'on trouve une solution politique et pacifique. Donc pour saboter, on fait ce qu'on peut. Et donc récemment, le procureur a juge d'instruction. Terminé l'instruction et a transmis ses conclusions à Ömer Güney et la famille des trois femmes. Mais on ne sait toujours pas. Mais ce qui est sûr, l'assassin était allé plusieurs fois en Turquie et communiqué avec les services secrets turcs. Ça, c'est on sait clairement. Et même les dirigeants turcs ont accepté.
Ça, c'était pour dire que ça sera semé d'embûches. L'avenir d'autonomie kurde dans différents pays. Il va y avoir des bâtons dans les roues, je pense, de la part de nos États. Quand je disais tout à l'heure, est-ce qu'ils vont laisser faire ou est-ce qu'ils n'ont pas déjà des plans, nos États? Je pense qu'il est
bon. Et pour ça que j'ai dit, c'est difficile pour nous, pour eux aussi c'est difficile. Eux, ils savent agir ensemble et faire la solidarité. Il faut que nous aussi, nous apprenions de faire la solidarité comme j'ai dit.
Peut-être il y a quelques mois, je crois que c'est la France qui a baissé ou annulé toute aide au centre culturel kurde à Paris. Et ça s'arrange maintenant ce qu'il y a.
Non, toujours pareil.
Abandon, là.
Non, toujours pareil. Toujours pareil. Et parce que pour les États, les intérêts qui comptent. Pour l'État français, l'intérêt qui compte avec la Turquie.
C'est une aide de l'État ou de la ville de Paris?
La ville de Paris,
Et même si la ville fait des aides, et c'est l'État qui est couronne, l'État peut toujours faire, comment dire. Mais lors de la résistance kobanais, je sais que la ville Rennes a fait une aide de 30 000 euros pour les réfugiés kurdes. La ville Paris est de 100 000 euros. Pour les réfugiés des Kobanais.
Mais sur place, c'est-à-dire...
Et la ville Rennes, comme il est un jumelage avec la ville de Diyarbakir, la mairie, c'est vraiment direct maintenant la mairie de Diyarbakir, et tandis qu'à Paris, ils ont fait cette aide par le biais de Croix-Rouge, une ONG qui s'appelle CARE et une autre ONG, c'est-à-dire trois ONG, par le biais de trois ONG françaises.
Je lis dans la lettre ouverte à François Hollande, écrite par le collectif de Toulouse. Elle participe au premier rang, je parle des militants, au premier rang de l'émancipation de leur société vers un idéal d'égalité, de laïcité et de justice. Kemal Atatürk était laïque. Comment vous décrivez cette laïcité que certains Français ont fort ancrée, mais qui est actuellement remise en question parce que ce n'est pas forcément la même laïcité qu'on entend en Turquie, qu'au Kurdistan, qu'en France.
Mustafa Kemal, il était quelqu'un de très rusé. Dans les années 30, il fait deux actes très importants, symboliques. En 34, il reconnaît le vote, le droit de vote pour les femmes, avant la France. Et en 37, il déclare que la Turquie est laïque. Et pourquoi il fait ça? Et dans les années 30, en Europe, il y a des États fascistes, Italie, Italie, Allemagne, et les partis uniques. En Turquie, c'est la même chose. Pour donner une image démocrate éclairée, il fait ses actes. Mais la laïcité de Mustafa Kemal, c'est la laïcité de Napoléon. Comme Napoléon contrôlait l'Église pour contrôler le pays, Mustafa Kemal, soi-disant, il est laïque. Mais ce qui lui dérangeait, c'est le sultan. Le calife. Parce que Mustafa Kemal, je fais une parenthèse historique. Mustafa Kemal, il est renvoyé par le sultan Vahdettin en Anatolie pour qu'il organise une résistance et qu'il fait chantage aux Anglais. Mais Mustafa Kemal, quand il passe, et surtout le sultan, pour financer le voyage de Mustafa Kemal, ils vont ses cheveux de race, parce que le trésor est vide. Et quand Mustafa Kemal arrive à Samsun, il oublie, il commence à travailler pour lui-même. Comme dans le monde, c'est unique. Dans l'Empire ottoman, personne ne peut être sultan s'il n'est pas descendant des Ottomans et mâle. C'est-à-dire qu'une femme ne pouvait pas monter sur le trône. Et c'était en Europe, en Angleterre, en Espagne, il y avait des femmes qui régnaient. Et comme Mustafa Kemal n'était pas au sein des Ottomans, il ne pouvait pas être sultan. Donc, pour lui, il fallait, comme tout à l'heure j'ai dit, comme il était militaire, et à l'époque, 50 000 militaires étaient passés en Anatolie. Et pour 50 000 militaires, il fallait une structure, un État. Eux, ils créaient leur État. Et comme le sultan, il était aussi calife, donc il a aboli le califat. Et abolir le califat convenait à qui? Aux Anglais. Il a eu un accord avec les Anglais. Parce que là où il avait des musulmans, il avait des révoltes contre les Anglais pour soutenir le sultan. Et après, pour distinguer, soit disant, il est laïque, mais il n'est pas laïque. Il crée une direction des cultes religieux. Aujourd'hui, c'est la 12e organisation dans l'État en termes de budget, 120 000 fonctionnaires, des milliards et milliards de dollars d'argent. Et tous les imams et toutes les mosquées sont entretenues par l'État et les imams payent des fonctionnaires d'État. Et c'est pas la laïcité, ça. Ça, c'est Napoléon qui faisait Concordat ou
Concordat.
Oui, Concordat. Pour moi, c'est Concordat.
On en reparle la semaine prochaine.
On fait un comité de soutien.
Ah non.
Comment on fait pour le vin, ça?
On peut créer un comité kobané. S'il y en a qui sont d'accord, on peut créer un mini-comité marciacois ou alors se rejoindre dans celui de Toulouse.
Oui, de Toulouse. Moi, je suis animateur de ce collectif et je fais la jonction parce que, par exemple, on renvoie une délégation le 5 juin pour les élections. Après, on essaie de préparer une délégation pour Kobané.
Quelques-uns d'entre nous veulent, on donnera nos noms.
Et le prochain Névrose, on le fait quand?
Névrose, 21 mars. Le nouvel an kurde.
On vient par Toulouse.
Bienvenue.
Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci.